Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de la nouvelle année. Nouveau rendez-vous cinématographique, une nouvelle formule souhaitée par la nouvelle direction d'FM+, Guylaine Dubois, élargir notre vision sur le 7e art en faisant place à un réseau français de cinéma indépendant. Dorénavant, chaque mois, vu à la radio et dédié au cinéma Utopia de Montpellier. Un projet d'animation culturelle cinématographique de proximité, une façon de contribuer à la diversité culturelle locale et à la création de liens sociaux. Ce rendez-vous mensuel nous permet de découvrir ce qui est à l'affiche dans les prochains jours. Nous avons retenu 5 longs métrages, du drame, de la science-fiction, un documentaire et un film d'animation. Nous allons détailler dans un instant les films sélectionnés. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Clapier, directeur du cinéma Utopia Montpellier, qui se situe au 5 avenue du Docteur Peset, tout proche de la fac de lettres. Arnaud Clapier, bonjour et merci d'être parmi nous.
Bonjour.
Alors, rapide rappel historique, mais rapide. Hein. Les cinémas utopiens voient le jour en 1976 en Avignon. Les années passent, les salles se multiplient. Bordeaux, Montpellier, Saint-Ouen-l'Aumône, Pontoise, Toulouse et Tournefeuille. L'année 2016 vient de passer. Ça a été une bonne année. Au passage, meilleurs vœux.
Merci. Mais également. Pareillement.
2016. Alors, un sacré record.
Oui, pour Utopia à Montpellier, en tout cas, c'est une très très belle année. On va pas se mentir, globalement, pour tous les cinémas, c'est une excellente année. Pour le cinéma français, peut-être un petit peu moins bonne année, puisque même si les chiffres sont globalement... le CNC fanfaronne beaucoup avec ça, les chiffres globalement sont très bons. La part de cinéma français, la part de cinéma... plutôt rare, plutôt indépendant et plutôt en déclin par rapport au cinéma hollywoodien. Bref, nonobstant, les salles de cinéma indépendants comme les nôtres, comme le Diagonal, comme le Sémaphore Anime, comme plein d'autres en France, enregistrent toute cette année une d'excellente progression. Et donc effectivement, Utopia Montpellier, ça va pas vous dire grand chose, mais c'est la première année qu'on dépasse les 100 000 spectateurs sur un exercice, et c'est assez pour nous c'est symboliquement, c'est... Voilà, on se dit qu'on a passé un cap. C'était déjà encourageant depuis 7 ans. Voilà, la 8e année s'annonce joyeuse.
Alors, vous veillez à avoir une programmation riche et variée pour le jeune public, des films de recherche et de découverte, de films de répertoire. Bien que vous veillez à avoir... vous veillez à avoir une programmation diversifiée, c'est le côté lien social, le côté de vouloir échapper à une seule règle, celle du profit, qui font la... l'avancée comme ça du cinéma indépendant.
Je sais pas du tout c'est quoi l'idée, c'est qu'on n'est pas particulièrement des cinéphiles en fait à la base, tous autant qu'on est là vous êtes remonté à 76, mais finalement c'est peut-être déjà ça d'ailleurs. On fait pas partie de cette caste de cinéphiles qui ont monté des ciné-clubs et qui ne s'intéressent au cinéma que par le petit bout de la lorgnette cinéphilique. On est d'abord intéressé par ce que le cinéma nous raconte du monde, la façon dont il nous ouvre les yeux. Et finalement, toute notre recherche de programmation, quelle qu'elle soit, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, on peut aussi bien programmer, alors pas des énormes blockbusters, parce que malheureusement, il y en a rarement qui nous excitent vraiment, mais en tout cas, on ne s'interdit rien en programmation. On peut aussi bien programmer du cinéma hollywoodien, de science-fiction, des choses qui vont nous passionner, que du cinéma d'auteur extrêmement rare et précieux. Voilà, on essaye de rien s'interdire, de proposer ce qui nous paraît à nous à la fois le meilleur en termes de qualité évidemment, mais aussi en termes d'ouverture sur le monde. Ça c'est le principal. Et après effectivement, on fait en sorte que nos lieux soient des lieux ouverts et de rencontre. C'est-à-dire que la rencontre, elle se limite pas dans la salle avec une œuvre et avec une vision très théorique des choses finalement, ou une présentation
des choses. Il y a des débats par la suite, voilà, selon les projections.
Il y a éventuellement des débats, mais de toute façon, les gens se retrouvent. Nous, on parle beaucoup, on parle notre vie à parler. On est des grands bavards là. Ça vous est peut-être vous en rendre compte aujourd'hui. Mais voilà, on adore ça. On adore susciter le dialogue. On adore susciter la réflexion. On adore, même les engueulades de temps en temps. Enfin, on adore notre métier.
Voilà, du dialogue et de l'échange. Alors, nous avons retenu 5 longs métrages qui sont à l'affiche à l'Utopia. Pour le premier, il s'agit d'un drame programmé jusqu'au 24 janvier. Il a pour titre Sully. Il nous vient des États-Unis, réalisé par Clint Eastwood, avec dans les principaux rôles Tom Hanks, Aaron Eckhart et Laura Linney. Le 15 janvier 2009, Le Monde a assisté au miracle sur Lutzen, accompli par le commandant Sully Sullenberger. En effet, celui-ci a réussi à poser son appareil. disparaît sur les eaux glacées du fleuve Hudson, sauvant ainsi la vie de 155 passagers à bord.
Cactus 1549, runway 4, clear for takeoff.
Cactus 1549, clear for takeoff. I'll never get over how beautiful it is up here.
Life's easier in the air.
Mayday, mayday, mayday. This is a Cactus 1549. Lost thrust on both engines. We are turning back towards the LaGuardia.
I have an emergency. You lost both engines. Returning immediately.
Today, we begin with our investigation on the crash of U.S. Airways Flight 1549.
Cactus 1549, if we can get it for you, do you want to try to land runway 13?
We are unable. We may end up in the Hudson. This is not a crash. This was dual engine loss at a lower altitude than...
Se lit l'histoire vraie du pilote d'US Airways qui sauva ses passagers en amerrissant sur l'Hudson en 2009 à l'Utopia jusqu'au 24 janvier.
155 passagers. On le gardera un peu plus longtemps que ça.
Ouais. Forcément, oui.
Voilà.
Vous allez le programmer.
Excusez-moi.
Non, mais vous en prie. Non, mais vous faites bien de le préciser. Donc là, pour l'instant, c'est jusqu'au 24, mais avec une prolongation certaine. 155 passagers à bord. Le drame semble inévitable. C'était sans compter sur le sang-froid de ce lit. Réussissant à poser son appareil sur le fleuve Hudson à New York, au large de Manhattan. Amerrissage réussi qui prend un drôle de virage, n'est-ce pas, Arnaud Clapier ?
Alors, en fait, ce qui nous a intéressé, nous, dans ce film, il y a plusieurs choses. Mais c'est pas forcément l'exploit héroïque de ce pilote, puisque le film finalement n'a de cesse de déconstruire et le personnage n'a de cesse d'essayer de s'extraire de cette représentation et de cette glorification. Et c'est ce qui fait que le film est vraiment passionnant. Pour la petite histoire, nous on y est vraiment allé à reculons, puisque ça fait des années que Clint Eastwood, même s'il est considéré comme un auteur incontournable, que ce soit dans ses films qui sont quand même ces dernières années assez platement réalisés, et dans ses prises de position politiques qui nous le rendent assez moyennement sympathique. Bref, personne n'avait
spécialement... d'ailleurs, positions assez surprenantes. Enfin, voilà, pour ma part, ça m'avait surpris, mais bon.
Tout à fait. Après, on sait depuis des années que c'est pas forcément le plus grand progressiste que la Terre ait porté, mais par ailleurs, ses films le sont. Donc c'est vraiment l'ambiguïté de ce personnage en fait quelqu'un de passionnant. Et ce dernier film, en tout cas, peu de mes confrères avaient eu la curiosité en fait de se pencher dessus. Il se trouve que il revient finalement vers son western Unforgettable, j'ai oublié le titre français. Bref, ce western crépusculaire où il met finalement en scène des personnages qui sont sur une fin de carrière, sur une fin de vie, qui n'ont plus rien à prouver et dont on va remettre en question à la fois l'aptitude, la connaissance du monde, etc. Et là, Sully, ce qu'il raconte, qui est vraiment formidable, c'est ce type qui est vraiment un professionnel aguerri, un pilote formidable, qui arrive à sauver quand même. Effectivement, c'est un héros dans la mesure où ce qu'il arrive à faire, personne n'était arrivé à le faire jusque-là. Ça en fait quelqu'un de théoriquement exceptionnel. Mais lui passe son temps à douter, d'abord parce qu'il est attaqué sur le bien fondé de son action par les assurances, mais ça c'est vraiment un prétexte dans le film. C'est vraiment le personnage qui doute et qui est confronté, lui, le facteur humain est confronté au facteur aujourd'hui mécanique, la machine, le numérique, l'informatique, etc. C'est vraiment un film absolument passionnant, et par ailleurs en termes de cinéma, c'est assez incroyable d'avoir un film pour lequel il n'y a aucun suspense, puisque du début, on connaît la fin du film.
Oui, on connaît l'histoire, quoi.
Le crash est rejoué 4 ou 5 fois pendant le film, et à chaque fois, on a les moites dans son fauteuil, et je crois bien que de mémoire de spectateur, j'ai jamais ressenti de façon aussi physique, aussi évidente,
aussi forte,
ce que ça peut vouloir dire que d'être dans un avion qui risque de se crasher, d'être avec les spectateurs, avec les passagers. Les spectateurs sont avec les passagers, c'est vraiment un film formidable.
Mais c'est peut-être le dispositif de 5 caméras tournant simultanément qui nous plonge réellement dans l'évacuation, comme ça, des 155 passagers.
Cette
façon
possible,
de filmer.
Je sais pas, je connais pas du tout la petite histoire en fait du tournage. Je sais pas. Je sais juste que le résultat est d'une efficacité à la fois troublante et
surprenante,
enthousiasmante. Voilà.
Alors, une première collaboration entre les deux légendes hollywoodiennes, Tom Hanks.
Oui, oui, tout à fait.
Mission accomplie.
Bah, il semblerait. Après, c'est que Tom Hanks, comme Clint Eastwood, finalement, sont des personnages médiatisés, connus, reconnus, desquels on a, nous, en tout cas, tendance à se méfier un petit peu, puisque Tom Hanks, s'il n'est pas dirigé, il est quand même capable du meilleur comme du pire. Mm-hmm. On peut se souvenir de Da Vinci Code et puis les films qui ont suivi. C'est quand même pas, il n'a pas fait que des chefs-d'œuvre et il n'est pas toujours d'une subtilité absolue. Après, objectivement, on sent que là, dans ce film-là, il touche peut-être, je pense que chaque fois qu'il joue quelqu'un de simple, quelqu'un du peuple d'une certaine façon, eh ben il touche quelque chose de juste et son jeu est vraiment en adéquation avec ça. Il est formidable. Chez Clint Eastwood, dans ce film-là, dans il ce est formidable. Film-là.
Donc, qui sera programmé au-delà du 24 janvier.
On espère bien, oui.
On passe au second, après le drame, place à la science-fiction. Premier Contact, film qui nous vient également des États-Unis, réalisé par Denis Villeneuve avec Amy Adams, Jeremy Renner et Forrest Whitaker. Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l'espace surgissent un peu partout sur Terre, une équipe d'experts est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions. Face à l'énigme que constitue leur présence et leur message mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes et l'humanité se retrouve bientôt au bord d'une guerre absolue. There are days that define your story beyond your life. Like the day they arrived. Dr. Banks, right this way, please. You are on the top. Everyone's on this when it comes to translations. Priority one. What do they want? Where are they from? Not everyone is able to process experiences like this. What happens now? More objects have landed around the world. We need to talk to the other sites. Find out what this means before they start global war. What does this say? Language is messy, and we don't know if they understand the difference between a weapon and a tool. So how do we clarify their intentions? I go back in.
Premier contact à l'Utopia, un film adapté du roman écrit par Ted Chiang, intitulé L'histoire de ta vie, Story of Your Life, publié en 1998. Alors Arnaud Clapier, ces étranges étrangers provoquent un processus qui est le suivant. Étrange, étranger, Roger. Pas besoin de recevoir des martiens pour observer ça, non ?
Voilà, c'est tout le propos du film. Vous avez très très bien résumé. De fait, c'est assez fascinant parce que le film lorgne à la fois sur le cinéma de Kubrick dans la représentation de. Là, il a pris des ovoïdes, mais finalement, ils sont quand même très très proches des monolithes de 2001 Odyssée de l'espace, qui apparaissent pas. Et enfin. Il est de proche de ce type de cinéma de science-fiction, en tout cas, qui s'intéresse vraiment, comme vous dites, à la notion de l'étrangeté et de l'étranger, et de ce lien entre les deux, et de la réaction qu'on peut avoir. Alors, il orgne vers Kubrick, qui se rapprocherait quand même beaucoup plus de l'autre référence évidente du film qui est Steven Spielberg et Rencontre du troisième type, du Spielberg, de la meilleure époque, on pourrait dire, et ça peut paraître clairement une relecture d'ailleurs de Rencontre du troisième type, avec un côté, mais qui fait sa marque de fabrique à lui, Denis Villeneuve. C'est pas que un refaiseur, c'est aussi un très bon faiseur. Et en l'occurrence, la construction du film est suffisamment maligne, elle est à la fois compliquée mais très simple à suivre, et elle raconte en filigrane quelque chose de l'intime qui va au-delà de ce qui est présent sur l'affiche et de ce qu'on peut en attendre, c'est-à-dire effectivement cette rencontre entre l'humanité et une humanité en tout cas, et des extraterrestres peut-être.
Et puis il faut souligner quand même les détails scientifiques qui ont été vraiment précis dans ce film.
Tout à fait, oui. Bah après,
il s'est bien entouré aussi.
Sans avoir de grandes connaissances scientifiques, en tout cas, on se rend très vite compte que la façon dont le film est conçu, construit, je pense pas qu'il veuille faire quelque chose de réaliste. Par contre, c'est extrêmement crédible et c'est ça qui est important. C'est qu'on est avec ces scientifiques. On se dit que oui, évidemment, les services américains vont se précipiter pour rencontrer une linguiste pour essayer de comprendre ce qui est à l'œuvre. Non, vraiment, c'est un film qui est évident et qui en même temps vous poursuit très 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 longtemps après la projection.
Et puis là, il me semble que là, Denis Villeneuve a permis d'explorer différemment et avec nouveauté cette thématique des aliens.
Dans la représentation, oui, même si avec un tout petit peu de jugeote, moi ça m'a rappelé pas le jour où la Terre s'arrêta, la Guerre des Mondes, la première version de la Guerre des Mondes. Enfin, je pense que dans la représentation, il invente rien. C'est vraiment dans la narration et dans ce qu'il met en perspective en fait dans son film qui a vraiment une nouveauté et qui ressemble à son cinéma, mais depuis Incendie. Et c'est un garçon qui ne cesse depuis quelques années comme ça d'aller chercher dans différents types de cinéma, aussi bien donc Incendie dont on parlait, qui était vraiment un drame politique et social et familial très 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 fort, aussi bien après il a fait Sicario, Prisoners aujourd'hui, donc ce film magnifique, et demain la suite de Blade Runner. Mais il va chercher vraiment dans des directions très très différentes, mais il ramène toujours tout à sa patte et à sa façon de construire. Je pense que sa vraie signature, c'est ça, c'est la construction de ses films et comment finalement il ramène le spectateur en fusion avec ses personnages principaux. C'est vraiment très troublant, très 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 troublant.
Et puis c'est courageux de sa part, c'est son premier film de science-fiction.
Voilà, on attend avec inquiétude le second, mais effectivement, ouais, tout à fait.
Allez, on poursuit avec cette fois un documentaire de Avi Moghrabi, un documentaire franco-israélien intitulé « Entre les frontières ». C'est bien ça, Stéphane, c'est bien, Entre les frontières, ouais. Merci Stéphane, à la régie. Entre les frontières, donc documentaire, oui. C'est l'histoire de Avi Moghrabi et Shane Allon. Ils partent à la rencontre des demandeurs d'asile africains que l'État d'Israël retient dans un camp en plein désert du Negev. Par le biais d'un atelier inspiré du théâtre de l'opprimé, ils interrogent le statut de réfugié. Pourquoi Israël, terre des réfugiés, refuse de considérer le sort de ces exilés que la guerre et les persécutions ont jeté sur les routes.
Shalom.
Shalom.
We have 7 years in Israel and we are not recognized any as we are refugees or criminal or whatever. We don't have any identification until today for 7 years.
אם היינו רוצים עכשיו להזמין לפה ישראלים ולהגיד להם אנחנו רוצים לספר לכם את הסיפור הזה של אנשים שהופכים להיות פליטים, איך אתם חושבים עכשיו?
Entre les frontières, à l'affiche à l'Utopia à partir de ce mercredi. Arnaud Clapier, une bonne thérapie pour ces réfugiés retenus dans un camp en plein désert, ces ateliers, cette forme de théâtre.
C'est...
Enfin, je dis thérapie, je ne sais pas si le terme est exact.
J'entends bien. Après, c'est des choses qu'on retrouve dans toutes les zones frontalières, finalement. La problématique des migrants et la façon dont ils peuvent être... d'une façon ou d'une autre, là en l'occurrence c'est du théâtre ou c'est de la mise en scène. Je connaissais à Calais des metteurs en scène qui faisaient le même boulot avec des Érythréens ou des Afghans dans la jungle à Calais par exemple. C'est vraiment c'est extrêmement poreux d'ailleurs la relation qu'on peut faire entre toutes ces zones et entre les façons, le pourquoi ces gens fuient leur pays, pourquoi ils sont attirés comme ça vers certaines zones et pourquoi ces édens possibles leur sont systématiquement fermés et ils se retrouvent comme ça dans une espèce de non-vie, de non-lieu. C'est toujours des no man's land totalement improbables. Et le film d'Avi Moghrabi, donc je crois bien que c'est la première fois, j'espère que je me trompe pas, mais la première fois que que dans son travail, il délaisse la relation d'Israël avec les problématiques d'occupation de Palestine. Mais finalement, on n'en est pas très loin, puisqu'il redéveloppe encore, avec Entre les frontières, la problématique d'un État, je ne parle pas d'un pays, mais vraiment d'un État dont les motivations ont vraiment à voir avec le racisme et avec le rejet, quoi. Voilà.
Je pense que là, le réalisateur, il présente donc ce travail qu'il fait avec ses réfugiés. Mais c'est un travail réciproque, parce que cette démarche, il essaie de changer le regard que peuvent avoir ces réfugiés.
Bien sûr, non, mais c'est, je pense que dans tous les cas...
De par lui, son investissement, quoi.
Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est montré, c'est très très clair dans le film. C'est que eux sont là pour leur proposer... C'est pas un jeu, ils sont là pour leur proposer un accompagnement, pour essayer de les sortir aussi de la vacuité totale, d'être dans une zone de transit. C'est une prison à ciel ouvert qui dit pas son nom, ce qu'on appelle en France désert. Des camps de rétention. Enfin, c'est rigoureusement la même chose, quoi.
Et d'ailleurs, il le précise, le réalisateur, il dit il reconnaît avoir été particulièrement choqué par la politique d'Israël concernant les migrants africains.
Absolument.
En raison de l'histoire même du pays.
Tout à fait. Ouais, ouais. Et lui fait aussi référence effectivement à l'histoire de sa grand-mère qui, fuyant le nazisme, est arrivée en Israël. Enfin, voilà, mais tous les pays sont. Enfin, je ne veux pas enfoncer des portes ouvertes avec ça, mais c'est vrai que tous les pays sont. Naissent et vivent à travers les flux migratoires, et que là, on est dans une période où il y a une tentation identitaire forte et de s'enfermer, de claquemurer les frontières. Et objectivement, on a besoin aussi de ce genre de film ou de ce genre de témoignage qui nous montre qu'un minimum d'humanité, en fait, ne peut pas se satisfaire de ce genre de politique.
On a pu voir là dernièrement le jugement dans le Var,
oui, du berger, d'un berger, mais bien sûr, le délit de solidarité.
Voilà.
Je ne sais pas ce qu'il est en Israël, mais il est à craindre que le délit de solidarité soit également quelque chose qui existe. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles, vous voyez, sur Entre les frontières, donc Avi Moghrabi, c'est un cinéaste effectivement important, et on a d'ailleurs invité sur une séance là le 23 janvier, on va recevoir le distributeur du film, donc Mathieu Berton, qui a vraiment accompagné Avi Moghrabi et qui accompagne la sortie de son film à travers toute la France. Mais on a quand même souhaité y associer également la CIMAD et RESF, parce que, à notre sens, il est inimaginable d'aborder cette problématique-là à propos d'Israël sans en parler également à propos de la France. Et je pense que là, on est vraiment dans vraiment l'universalité de cette problématique et de cet accompagnement. Et le travail que fait Avi Moghrabi avec son camarade, avec ces migrants africains en Israël, c'est vraiment le même qu'on va retrouver, je dis, sur la jungle de Calais, et dans tous les lieux, finalement, où on va essayer de parquer des indésirables, et où il y a des gens qui vont donner de leur temps et de leur énergie pour essayer... d'abord de leur apporter un accompagnement de réconfort, et ensuite de les aider, parce que c'est aussi une aide matérielle qu'on peut leur apporter. Donc en l'occurrence, dans le film, ce cinéaste et ce metteur en scène, bien sûr, il joue à faire de la mise en scène, mais il rejoue les situations dans lesquelles ils se sont trouvés et dans lesquelles ils vont se trouver. Et il les prépare d'une certaine façon à ce que va être leur parcours à venir, à la fois en Israël, éventuellement de repartir dans leur pays. Enfin voilà, il travaille tout ça, quoi. C'est vraiment absolument passionnant, et le film a ceci d'assez génial, c'est que, mais c'est toujours le cas chez Avi Moghrabi, il y a énormément d'humour, et arriver à faire rire et à amuser sans se moquer, évidemment jamais, mais avec des gens dont on sait qu'ils ont, c'est plus que bienveillant, et avec des gens, donc ces Africains qui ont vécu quand même, ils le racontent, des drames, ça vous fait froid dans le dos quand ils en sont au témoignage, et d'arriver à les amener comme ça vers une espèce de prise de distance et arriver à faire sourire le spectateur, franchement chapeau, quoi.
D'ailleurs, Avi Moghrabi, il a fait participer, donc il a fait collaborer des demandeurs d'asile et des Israéliens Et ainsi, en joignant donc leurs forces, ils peuvent, ils font tourner la pièce maintenant.
Tout à fait. Alors après, donc moi sur l'histoire, au-delà donc du film, c'est vrai que la pièce, je sais pas si on peut appeler ça une pièce, mais c'est vraiment une proposition en tout cas de mise en scène et de témoignage, et qui tourne comme ça effectivement avec. Mais c'est très montré, c'est très beau sur la fin du film, la façon dont il finit par faire rentrer des Israéliens dans le processus et à créer quelque chose d'un petit peu différent et d'ouvert, et qui va effectivement amener vers autre chose.
Le distributeur sera présent.
Donc Mathieu Berton, Météor Film, sera là le 23 janvier à 20h, et avec donc nos camarades de la CIMAD et de RESF. Et le film, donc on va essayer de le garder suffisamment longtemps. Mmh. Voilà.
Donc le 23 janvier, à ne pas manquer au cinéma, Utopia. Allez, on conclut tout en restant toujours du côté d'Israël. Un drame qui a pour titre Une semaine et un jour, réalisé par Asaf Polonsky. Les premiers rôles sont confiés à Shai Avivi et Tomer Capone, entre autres. À la fin de Shiva, les 7 jours de deuil de la tradition juive, l'existence doit reprendre son cours, tandis que Vicky, sa femme, se réfugie dans les obligations du quotidien. Eyal, lui, décide de lâcher prise avec un ami de son fils défunt. Il partage un moment de liberté salvateur et poétique pour mieux renouer avec les vivants. Une semaine et un jour. Alors Arnaud Clapier, que pouvons-nous dire de ce film ? C'est un hymne à la vie après un drame vécu.
Ce qui est surtout génial, c'est que c'est une comédie en fait.
Et oui.
Et comme nous, on l'avait mis en accroche de notre programme, mais c'est vraiment la meilleure réponse qu'on puisse apporter à l'éternelle question, c'est peut-on rire de tout ? Et la réponse est oui. Peut-on rire de la mort ? On peut dire oui. Et c'est un premier film, et arriver à se colter comme ça avec ce qui peut arriver de pire, ce qui peut arriver de pire à des parents, de perdre un fils, un enfant, d'arriver au bout de cette période de deuil, et essayer de raconter avec humour la façon dont l'un comme l'autre, c'est le père, la mère, vont essayer de reprendre pied, comme vous disiez, dans le monde des vivants. Ils le font de façon très très différente. Elle se jette à corps perdu dans le travail, essaye de reprendre une espèce de train-train qui va tout annihiler. Lui, par contre, se retrouve dans une espèce de parenthèse.
Il redevient ado un peu.
Il essaye de retrouver son fils. Son fils était adolescent, il a perdu son fils, et d'une certaine façon, il va être confronté comme ça à pas mal de situations dans lesquelles il va essayer de retrouver quelque chose. Et Il est pas toujours défendable. C'est un personnage qui a des attitudes comme ça vraiment détestables. Enfin, il peut frapper ses voisins, il peut d'une violence, parce que il est à fleur de peau, il ne se refuse plus rien, il est malheureux, il est en deuil, et il va vraiment descendre, et quand on arrive au fond de la piscine, on donne un coup de talon et on remonte, et le film raconte exactement ça. C'est magnifique de poésie, c'est drôle, c'est vraiment drôle.
On rit beaucoup,
et
oui.
C'est drôle avec générosité, encore une fois, et ça fait beaucoup de bien.
Une semaine et un jour à l'affiche de l'Utopia, dès aujourd'hui. Merci Arnaud Clapier, nous ne manquerons pas de venir voir ces merveilleux films.
Merci à vous.
Rendez-vous en début février pour un nouveau numéro.
Avec plaisir.
Tout le plaisir est pour nous. Pour ma part, c'est noté. Alors rendez-vous tous à l'Utopia, 5 avenue du Docteur Pezet à Montpellier. Une belle programmation vous attend, tout comme l'accueil fort chaleureux. On se quitte sur une belle citation sur le 7e art, signée Jean Cocteau. Le cinéma, c'est l'écriture moderne dont l'encre est la lumière. Bonne séance à toutes et à tous. Bye bye.